chiens, chats et compagnie, la rubrique animaux avec le docteur vétérinaire Jean-Charles Duquesne.
Chien, chat et compagnie, avec nous cet été, le docteur vétérinaire Jean-Charles Duquesne. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Régis.
Aujourd'hui, on parle d'une maladie très problématique chez le chien et le chat. C'est l'épilepsie. On va faire donc le point.
Ouais, typiquement, la crise d'épilepsie, c'est une crise de convulsion, plus ou moins généralisée, qui est l'expression d'un dysfonctionnement, plus ou moins partiel, du cerveau. L'épilepsie est caractérisée par des crises convulsives, récidivantes, périodiques et imprévisibles. Elle est accompagnée de troubles moteurs, viscéraux, sensoriels et sensitifs, et même psychiques, avec la possibilité d'altération de la conscience, mais qui n'est pas obligatoire. On le sait peu, mais on peut faire de l'épilepsie convulsée et être tout à fait conscient. D'ailleurs, vous imaginez l'état émotionnel que cela peut induire, la panique d'être prisonnier d'un corps qui fait n'importe quoi. Vous l'aurez compris, une crise convulsive chez votre chien ou votre chat ne signifie pas nécessairement qu'il est épileptique, c'est la répétition des épisodes qui posera ce diagnostic.
Et comment se passe une crise d'épilepsie ?
La crise classique se déroule en quatre phases. La première phase est difficilement observable chez l'animal. La seconde phase, que l'on appelle l'aura, précède la crise de quelques minutes à quelques secondes. Ça se détecte bien chez le chien. Il est fatigué, recherche de l'attention ou au contraire se cache et peut présenter des tremblements, de la salivation, des gémissements. La crise elle-même, on parle d'ictus, dure quelques secondes à quelques minutes, on va y revenir. Et enfin, après la crise, l'animal peut mettre quelques heures à quelques jours à se remettre. Il est fatigué, léthargique, désorienté et parfois présente des troubles de la vision.
Parlons de la crise elle-même.
Alors la crise classique est souvent décrite comme une contraction musculaire soutenue, avec perte de conscience, respiration irrégulière ou absente, pédalage, émission d'urine ou de sel même. Et ça, alors ça, vraiment, c'est dans les films. Elle est souvent beaucoup, beaucoup moins forte que cela. Elle se manifeste par une perte de tonicité musculaire ou une perte de conscience. Ces crises partielles sont le reflet d'un dysfonctionnement d'un groupe de neurones seulement du cerveau. Leurs manifestations sont donc variables en fonction de la région du cerveau qui est touchée. Les crises partielles complexes s'accompagnent de petits mouvements involontaires, notamment au niveau de la face, de mâchonnement ou de léchage, par exemple.
Quelle est son origine ?
Alors, on classe souvent que l'origine soit une zone du cerveau lui-même, soit à l'extérieur du cerveau. D'origine extracrânienne, on peut citer l'action d'un toxique, l'alcool par exemple. On peut avoir une défaillance métabolique ou organique avec une insuffisance hépatique, rénale ou pancréatique, comme une sévère hypoglycémie aussi. D'origine intracrânienne, il y a une malformation, un traumatisme avec œdème, voire hématome, tumeur. Et puis celle qui nous fait se tirer les cheveux, c'est l'épilepsie idiopathique sur un animal qui ne présente aucune lésion cérébrale ou métabolique. Alors c'est assez fréquent, plus de 1% de la population canine est concernée. J'ai pas les chiffres chez le chat, c'est un peu moins a priori. Aucune race n'est à l'abri, le pic d'apparition de l'épilepsie se situe environ vers 5 ans. Il y a une prédisposition raciale chez les retrievers, les bergers allemands et belges, le setter irlandais, les cockers, le bouvier bernois, le collet et le beagle. Les femelles, elles, sont atteintes d'épilepsie, mais font des crises plutôt au moment des chaleurs.
Et que faut-il faire pendant cette crise ?
Alors, devant un animal épileptique en crise, même si c'est une urgence et qu'il est nécessaire d'agir, on prend son temps et on réfléchit avant. On prend un top horaire pour connaître la durée de la crise. On veille à sa propre sécurité, conserver une certaine distance avec la gueule du chien ou les griffes du chat pour ne pas vous faire mordre ou griffer. Ensuite, on veille à sa sécurité. On le place par terre, s'il ne l'est pas, pour éviter les chutes. On l'éloigne des objets pouvant le blesser. Diminuez au maximum les stimulations de l'environnement. Éteignez les lumières. Surtout, ne criez pas. On peut le caresser aussi, on peut lui parler doucement avec une voix vraiment apaisée. On peut le couvrir avec une couverture pour minimiser ses gestes. Mais attention à ne pas empêcher sa respiration, qui est déjà un petit peu compliqué. Laissez la langue où elle est. Dans 99% des cas, ça se passe bien. À la fin de la crise, il faut attendre qu'il se tienne correctement en sphinx pour lui donner à boire ou à manger pour éviter toute fausse déglutition. Si la crise dure plus de 5 minutes ou s'il y a plus de 3 crises dans la journée, on file aux urgences. Je me permets d'ajouter que j'ai aidé, voilà, un mois, un jeune homme sur un trottoir à Paris qui faisait une crise assez forte. Tout le monde regardait, mais n'agissait pas, à part appeler les secours. Si je n'intervenais pas, il se cognait fortement la tête par terre. Donc n'hésitez pas à agir. On met en PLS, on maîtrise et on calme. Un chien en déchien, dressé pour maîtriser des crises chez un bénéficiaire humain qui est épileptique, va d'ailleurs s'allonger sur son protégé. C'est normal, laissez-le faire ou même aidez-le.
D'accord, on revient alors chez les chiens et chats, ça se soigne.
Alors ça dépend de la cause, j'ai dit des gros mots ou grands mots tels que tumeur ou œdème cérébral, donc c'est évidemment très sérieux. Des traitements existent à base de barbiturique, de bromure ou de gabapentine. C'est à vie, mais ça fonctionne bien une fois que l'équilibre est trouvé.
Merci Jean-Charles, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.